VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Algérie, le président du Conseil constitutionnel algérien, Taïeb Belaïse, une des principales figures du régime visée par les contestataires, a présenté sa démission ce mardi au chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Monsieur Belaïs était un fidèle du président Abdelaziz Bouteflika, qui a lui-même démissionné le 2 avril sous la pression conjuguée de l'armée et du mouvement de contestation. Son départ du Conseil constitutionnel, chargé de valider notamment les candidatures à la présidentielle fixée au 4 juillet pour élire un successeur au président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika, était réclamé à corps et à cri par les contestataires qui jugent le système en place incapable de garantir un scrutin libre et équitable. Le mouvement Contestation faisait désormais campagne pour le retrait de ce qu'il appelle les 3B. Le président intérimaire Abdelkader Ben Salah, le premier ministre Noureddine Bédoui et le président du Conseil constitutionnel Taïeb Belaïse. Mission accomplie en ce qui concerne ce dernier. Conflit en Libye voisine, au moins 174 morts et 758 blessés, dont des civils. Tel est le tout dernier bilan selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'offensive lancée le 4 avril par l'ANL, l'armée nationale de libération du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour conquérir Tripoli, la capitale. Le porte-parole de l'OMS à Genève, Tariq Jassarevitch, a précisé qu'au moins 14 civils avaient été tués et 36 blessés dans les affrontements qui opposent l'ANL aux forces du GNA, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Des affrontements principalement au sud de Tripoli. En plus des combats au sol, les deux camps mènent quotidiennement des raids aériens et s'accusent mutuellement de viser les civils. Mouvement de contestation au Soudan, les organisateurs de la contestation réclament maintenant la dissolution du Conseil militaire de transition. Et ce, au 10e jour d'un sit-in rassemblant des milliers de manifestants devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Les détails avec Michel Joseph.
Nous voulons la dissolution du Conseil militaire et son remplacement par un Conseil civil qui comprenne des représentants de l'armée, a déclaré hier Mohamed Naji Al-Assam, un responsable de l'Association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation. Le général Abdel Fattah Al-Burhane, nommé vendredi à la tête du Conseil militaire, avait promis d'instaurer un gouvernement civil sans donner de calendrier. Par la suite, le Conseil militaire a rencontré les partis politiques, les appelant à se mettre d'accord sur une personnalité indépendante qui deviendrait Premier ministre et sur un gouvernement civil. L'Union africaine a menacé lundi de suspendre le Soudan si l'armée ne quitte pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile d'ici 15 jours maximum. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège avaient aussi appelé les militaires soudanais à entamer rapidement un dialogue crédible avec l'opposition, les organisateurs de la contestation et des représentants de la société civile.
Violence en République centrafricaine. La Russie va envoyer 30 militaires renforcer la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, selon les termes d'un décret signé lundi par le président russe Vladimir Poutine. Précision d'Irénée Hermanoumbo.
Parmi les 30 militaires que va dépêcher Moscou à Bangui, des officiers de liaison, des observateurs militaires et officiers d'état-major, précise ce décret publié par le portail officiel du ministère russe de la Défense. En février, un accord de paix a été signé entre Bangui et 14 groupes armés qui contrôlent une partie du pays. La MINUSCA forte de 12 000 soldats est en Centrafrique depuis 2014, mais n'a pas su endiguer le cycle de violence depuis fin 2016. Elle a même été souvent accusée de prendre parti. La Russie a de son côté fait une entrée remarquée depuis un an dans cet ancien précaré français. Elle a livré des armes au FACA et assure la sécurité du président Faustin Archange Touadéra. En juillet 2018, trois journalistes russes qui enquêtaient sur la présence des mercenaires russes en RCA ont été assassinés dans des circonstances assez troubles.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le général Amissi Koumba, alias Tango Fort, chef d'état-major adjoint de l'armée congolaise, est cité dans une dénonciation rendue publique aujourd'hui qui porte sur des concessions d'exploitation florestière attribuées en violation de moratoire en cours. L'ONG Global Witness, auteur du document, demande au nouveau leader congolais d'annuler les concessions en question et d'en publier les détails. Eddie Sango a joint à Londres Jean-Luc Blecky, un haut responsable de Global Witness.
Le juin dernier, plusieurs concessions forestières en RDC étaient annulées de façon illégale et après, deux semaines après, attribuées à une société, Maniema Union 2, encore d'une façon illégale, en violation de la moratoire forestière en RDC. Et maintenant, Maniema Union 2, à ce moment-là, appartenait à la famille d'un général sanctionné, M. Amissi Kumba. Et deux semaines après qu'ils ont obtenu cette concession forestière, ils ont vendu toute la société à M. Li Hua Zhang, qui est aussi le directeur d'une grande société de bois chinoise qui s'appelle Wanpeng International. À notre avis, l'octroi des concessions forestières à Maniema Union 2 et la manière de laquelle les concessions ont été annulées, c'est tous les deux illégal.
Vous dites que la compagnie appartenait ou appartient à la famille. Quel lien vous faites avec les généraux en tant qu'officier de l'armée de la RDC?
La compagnie, au moment qu'ils ont eu ces concessions, appartenait à la femme de le général et plusieurs de ses enfants. Ça inclut trois enfants qui étaient mineurs, qui n'avaient pas le pouvoir de gérer leur partie de la société eux-mêmes. Et lui gérait une portion de la société au nom de ses enfants qui étaient mineurs. Alors, ils n'avaient pas le pouvoir de gérer la société elle-même. Alors, le général, il avait le pouvoir de gérer la société à leur nom. Le général est sous sanction à cause des abus aux droits humains qui étaient menés contre les démonstrations pro-démocratie en 2016. Et après, l'année dernière, avant que l'élection va commencer, le général a pu obtenir plusieurs concessions avec une très grande valeur. Et pour nous, ça demande des questions.
Et vous parlez de la société chinoise qui exploite du bois depuis quelques années en RDC. Qu'est-ce que vous reprochez à cette compagnie?
Li Huanzhuang est le propriétaire d'une société qui s'appelle Wanpeng International. Wanpeng International a dit sur leur site web qu'ils étaient dans le pays de RDC depuis 2015, où ils ont obtenu au moins 1 million d'hectares de forêt. Mais ils n'apparaissent pas sur les records officiels de propriétaires de concessions forestières, ni sur les records d'export qu'on a vus. Alors, à notre avis, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il fait dans le pays, sauf quel nom. On n'a pas pu trouver la réponse à ces questions qu'on a demandé au gouvernement, ni à la société.
Mais vous exprimez quand même des craintes qu'il y ait eu violation en matière d'exploitation du bois dans ce pays.
Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu nous-mêmes. Nos partenaires travaillent dans le pays, ont bien documenté et vu ça, mais ce n'est pas quelque chose depuis moi, je peux parler là-dessus.
Et vous relevez aussi que la compagnie chinoise a racheté une autre compagnie d'exploitation du bois dans le Congo-Brazzaville, mais en utilisant les hautes autorités du pays.
Ils ont acheté 80% d'une société de bois détenue par la fille de Denis Sassou. Alors, en effet, quelqu'un très proche au pouvoir, très puissant, et c'est avec cette personne-là que Wanpeng International a décidé d'entrer dans les affaires.
Jean-Luc Blecky, un haut responsable de l'ONG Global Witness. Relations États-Unis-Afrique maintenant, l'OPIC, une agence du gouvernement américain qui finance notamment des projets de développement, compte investir des centaines de millions de dollars dans des compagnies et des fonds qui autonomisent les femmes en Afrique. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Ivanka Trump, la fille du président américain Donald Trump, et David Boyajian, le directeur par intérim de l'OPIC, l'Overseas Private Investment Corporation, ont annoncé cette initiative hier à Addis Abeba, en Éthiopie, où ils sont en visite en tant que membres d'une délégation gouvernementale américaine. Selon l'OPIC, cette initiative vise à réunir 1 milliard de dollars et à investir directement 350 millions de dollars dans des compagnies et fonds appartenant à des femmes et dirigés par des femmes, ou à fournir des biens et services qui autonomise intentionnellement les femmes du continent. Ivanka Trump a par la suite rencontré la présidente Saleh Workzede et a discuté avec elle de la nécessité de réformes en Afrique pour accroître les opportunités pour les femmes et leur inclusion. La fille du président Trump visite, outre l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire.
Et pour terminer, en France, l'incendie qui a en partie dévasté la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir est totalement éteint. Une collecte est lancée à partir de ce mardi midi par la Fondation du patrimoine sur son site internet pour la remise en état de ces édifices gothiques dont la construction a commencé à la fin du XIIe siècle et qui a subi une importante rénovation au XIXe siècle. L'origine du sinistre qui s'est déclaré sur la toiture de la cathédrale alors que des travaux travaux de rénovation avaient été engagés, n'a toujours pas été déterminée. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.